L'autre jour, j'ai parlé de ça avec mon psy, nanana, puis il n'y a aucun problème. Genre, c'est décomplexé, puis on parle de qu'est-ce qui va pas entre nous. Ça aide, je pense, dans ce parcours étudiant d'en parler.
Puis justement, dans comme un certain équilibre, c'est sûr que les trois, on est dépendants quand même relativement impliqués comme au sein de l'association. Vous deux, vous faites le stage de page, plus les jeux de la Sciences Po, plus on a tous les trois un emploi étudiant. Mais tu sais, la plus grande leçon que j'ai appris, que j'essaye d'apprendre encore, c'est que c'est bien beau d'aller à l'école, d'étudier, de travailler. Mais le plus important, c'est tout le temps d'essayer de prendre des cases horaires de ta semaine juste pour pouvoir te reposer, rien faire, dormir, pour justement garder une bonne santé mentale au fil des sessions.
Oui, exactement.
C'est une très belle conclusion. Donc, merci pour ça. Donc, c'est ce qui conclut le premier épisode d'A priori. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagnée pour l'animation de ce premier épisode-là. On va se dire qu'il est un peu stressant. C'est une nouvelle expérience. Puis, c'est pas tout nécessairement la tasse de thé à tout le monde de faire la radio. Donc, merci pour ça. Donc, la semaine prochaine, on embarque vraiment dans le vif du sujet avec une discussion sur un sujet en particulier. Ça va peut-être être la rémunération des stages, la guerre en Ukraine. Je vous laisse un peu, si vous voulez le savoir, je vous invite à être fidèle au poste. Donc, les mercredis à 10h sur les ondes de Chiz. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Merci de votre écoute et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, Québec.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, bienvenue à toutes et à tous, c'est Mélina Seymour. J'ai, comme chaque mercredi, le plaisir et le bonheur de vous rencontrer ici pour ce rendez-vous de questions de savoir. Questions de savoir, donc cette émission donc, de l'ALLIE, l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits au études supérieures. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Zéhé, qui est donc la nouvelle attachée aux communications de l'ALLIE, votre association du cycle supérieur. Laetitia, bienvenue.
Merci Mélina, bienvenue à toi. Bonjour.
Bonjour. Bonne année, la santé. Mais tout le mois de janvier, on peut souhaiter la bonne année. Donc,
exactement.
Profitons-en. Laetitia, bienvenue. Ben écoute, tu prends les rênes de la communication effectivement de l'ALLIE et on va parler des défis. Mais d'abord, on va parler de toi. Parle-nous de toi. Présente-toi. C'est ton moment et on est ravis de t'accueillir ici parce que finalement, c'est toi qui va reprendre les rênes de cette émission bientôt. Ça me fait bien plaisir parce qu'on a beaucoup de choses à faire à la chaire publique. Donc, c'est un réel bonheur de t'accueillir ici. J'espère que vous qui nous écoutez, vous allez bien, que vous avez passé, que vous passez un bon début de semaine, que ça va à la maison, ça va pour les études. Et sachez toujours qu'au niveau de l'Université Laval, vous avez bien évidemment plein de personnes qui sont à votre écoute. Donc n'hésitez pas, quels que soient les soucis que vous pouvez avoir, vous trouvez quelqu'un sur le campus, il y a plusieurs services, des gens qui pourront vous aider. Donc c'est toujours utile à rappeler évidemment Laetitia. Laetitia, je vais te laisser le micro pour que tu puisses te présenter. Bienvenue.
Merci beaucoup Mélina. Alors je suis Laetitia Zéhé, j'ai 22 ans bientôt et je suis diplômée en journalisme numérique à l'Université d'Ottawa. Donc je suis passionnée de journalisme, de politique et aussi de culture et art africaine. Présentement j'ai aménagé à Québec pour relever de nouveaux défis parce que je me dis que ma voix sera peut-être ici avec les francophones dans le fond. Et aussi, je suis présentement la nouvelle attachée aux communications de l'Allier. Donc, ça sera un nouveau défi pour moi, un nouveau départ. Et puis aussi, une histoire de peut-être d'aider l'Allier, une nouvelle communication dans le fond. Donc, voilà ça. Voilà,
super. Ben, on est bien heureux de t'avoir avec nous. Alors, plaisir Laetitia, partagé. Tu dis que tu t'intéresses au journalisme, à la communication de façon générale, aussi à la politique. Ça veut dire que tu es profondément humaine, certainement, et que tu t'intéressais évidemment à la société. C'est quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce qui t'émeut particulièrement en ce moment dans notre société?
Présentement, je dirais la place de la femme. Mm-hmm. Pour moi, les femmes sont des héroïnes. Mm-hmm. Elles ont droit à beaucoup plus de place que les hommes dans notre société. Et je pense que la société est un peu injuste quand il s'agit des femmes. Face à tous les problèmes et les difficultés qu'on rencontre au quotidien.
Mmh, tu parles de quoi exactement? Est-ce que tu es du courant féministe? Et puis d'ailleurs, c'est quoi être féministe en 2023?
Alors pour moi, le féminisme, c'est militer pour les droits des femmes, mmh. pas chercher une égalité homme-femme, parce qu'on peut pas être égaux à 100%, parce qu'ils ont quand même une capacité, une certaine force qu'on n'a pas en tant que femme. Mais pour moi, être féministe, c'est pouvoir, avoir un poste de présidente, c'est pouvoir être libre de s'habiller comme on veut, pouvoir sortir sans problème, faire ce qu'on veut dans la société sans être jugée. Ou sans qu'on nous dise, mais t'es une femme, tu peux pas le faire. Si je dois donner peut-être un exemple, c'est, je dirais, si une femme aujourd'hui décide, dans le fond, de ne pas se marier, faudrait pas qu'elle soit jugée, faudrait pas qu'on lui dise, mais toute femme est appelée à une femme, faudrait pas qu'une femme soit catégorisée parce qu'elle est mariée ou parce qu'elle est pas mariée. Faudrait qu'on soit accepté et respecté tel qu'on veut. Parce que quand un homme décide de ne pas se marier, on se dit qu'il a ses raisons, mais il n'est pas jugé. Mais c'est différent pour une femme. C'est aussi comme quand une femme décide de ne pas avoir d'enfant. On te dit, toute femme doit avoir un enfant. Tu ne peux pas être mère célibataire ou tu ne peux pas être stérile. C'est la société qui le demande. Il faut que tu fasses des enfants.
Donc le jugement des autres, c'est en fait justement par rapport, enfin, le jugement des autres par rapport au regard des femmes.
C'est ça.
Ça peut peser aussi. Comment tu le vis dans le milieu universitaire, par exemple? Est-ce que la voie est libre pour des étudiantes de parler de toutes ces questions-là, selon toi? Peu importe l'université, d'ailleurs.
Dans le fond, je dirais que la voie n'est pas totalement libre. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels, comme le viol, par exemple, sur lesquels les femmes essayent de militer à chaque fois. On est écouté, mais il y a toujours des problèmes. Parce que, de ce que je sais, c'est que la première question qu'on pose à une victime du viol, c'est « Qu'est-ce que tu avais porté ?» ou « Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu ne l'as pas provoqué, dans le fond ?»
Ça se vit comme une seconde agression.
C'est ça. Mmh. Alors que ce n'est pas des questions qui doivent être posées directement. Quand une femme te dit « j'ai été victime de viol » ou « je viens d'être agressée », il faudrait qu'on puisse lui demander « comment tu vas ?» et qu'on n'essaye pas de rejeter en fait une seconde faute sur elle, par exemple côté vestimentaire ou même peut-être par le langage ou par des gestes ou une certaine attirance ou un comportement qu'elle a eu. Mais il faudrait qu'on puisse prendre le problème à cœur et qu'on puisse lui demander « si elle se porte bien, si elle va bien » et puis essayer de demander à l'homme pourquoi il l'a fait.
Ok, est-ce que tu penses que justement dans ce genre de procédure judiciaire ou ne serait-ce qu'au niveau effectivement de la police tout court, mm-hmm. Des groupements de femmes devraient voir plus le jour, ça existe, hein, ça existe dans chez certaines polices, mais ça reste encore trop timide, selon toi? Devrait y avoir plus de femmes qui s'occupent spécifiquement des femmes qui sont victimes de violences conjugales dans les services de police et dans les services de police et
juridique. Pense que oui. Mais je sais qu'il y en a déjà, oui, mais le problème vient plus au niveau du traitement, mm-hmm. dans le fond, du verdict qu'on donne à l'homme. Parce que je sais qu'il y a plein de cas de viol qui sont restés sans réponse. Il y a aussi d'autres cas où l'homme a été... il s'est excusé et puis l'affaire a été classée. Ça ne donne vraiment pas le courage aux femmes après de militer. Je sais qu'il y a vraiment... La justice fait son travail, mais après, il faudrait qu'il y ait plus un accompagnement au niveau de la femme.
Est-ce que ça a libéré la parole, tous ces non. mouvements, MeToo, Balance ton porc, enfin bref, tout ça. Est-ce que, mine de rien, enfin, cette dernière décennie, quand même, les choses ont évolué?
c'est très minime encore l'évolution. Mm-hmm. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore enfermées, qui ont peur du jugement et qui refusent de parler. Il y a d'autres qui sont, dans le fond, découragées par le verdict qu'on a à la fin lorsqu'une femme dénonce son agresseur ou un violeur. Donc je me dis, c'est encore très, très minime. Il faudrait peut-être que la justice soit un peu plus poussée. Il faudrait que les... je dirais le verdict des agresseurs soit plus sévère pour donner le courage et la force aux femmes de parler et puis pour donner également le courage à d'autres mouvements de se lever.
Mmh. Ici, évidemment, nous sommes au Québec, au Canada. Est-ce que ça t'arrive de faire des parallèles avec ce qui se passe dans les pays d'Europe ou encore sur le continent africain ou même en Asie, quoi? Est-ce que ça t'arrive de faire des parallèles, de voir les croisements comme ça? Comment les choses sont traitées?
Oui, dans le fond, je dirais oui. Je ne sais pas si vous avez appris récemment, il y a la fête de, je dirais, l'ex-joueur international français, Benjamin Mendy, qui avait été accusé d'agression, de cette agression. Récemment, le verdict est, enfin, pas totalement tombé, mais ils ont dit qu'il a été non coupable. Et j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux.
Non coupable de 6 contre 7. Le 7e verdict n'est pas encore tombé. Oui.
Mais là, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et je pense que la plupart des commentaires étaient en défaveur des femmes. Donc, celles qui étaient peut-être clamées ou qui étaient applaudies parce qu'elles avaient dénoncé d'être victimes de viol sont en ce moment injurées et insultées par la population sans vraiment essayer d'aller en fait chercher le vrai problème.
Mais enfin, ceci dit, c'est un verdict qui a été donné. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours, quand il y a des verdicts comme ça, on peut toujours s'interroger sur le fait que certaines femmes qui sont victimes de violences, quand il y a des jugements comme ça qui sont donnés, effectivement, ça laisse perplexe.
C'est vrai.
La responsabilité aussi, effectivement, des hommes. On doit aussi respecter, effectivement, certains verdicts qui sont, les verdicts qui sont donnés, évidemment. Et donc, comme tu le disais, Laetitia, peut-être le problème est aussi ailleurs, quoi. Donc, il y a un problème de fond qu'il faut effectivement mener. Et puis, que ce type de verdict ne décourage pas les femmes à porter plainte, quand c'est le cas. Et respecter aussi les hommes à travers ce qu'ils sont aussi, tout comme on doit respecter les femmes à travers ce qu'elles sont. Et ça détruit pas mal de familles, donc les choses sont compliquées. Ce sont
de famille, de vie aussi, avec le traumatisme qu'il y a.
Bon, on commence avec un sujet très fort. Alors, ton implication, donc en fait, effectivement, donc toutes ces questions de société t'interpellent, Laetitia. Est-ce que dans ta vie quotidienne, tu es impliquée dans des mouvements associatifs ou pour des causes? Justement, tu parlais de féminisme. Est-ce que tu peux nous parler de tes implications sociales?
Oui, c'est plus pour la scolarisation des femmes. Mm-hmm. Donc, je suis membre d'une association qui est basée en Côte d'Ivoire, Soutrali, dans laquelle on scolarise des femmes chaque année. Mmh. Et puis aussi, je fais des dons à d'autres associations qui sont en Côte d'Ivoire, qui aussi sont pour les enfants vivant dans les milieux carcéraux, dans le fond. Mmh. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je me dis que ces enfants qui sont nés là-bas n'ont rien demandé. Mmh. Donc, ils devraient avoir une chance dans la vie. Parce que de ce que je sais, c'est que quand ces enfants naissent, ils n'ont personne qui vient les récupérer. Ils n'ont nulle part où aller. Les mères aussi refusent de donner leur enfant parce qu'ils ne veulent pas que ces enfants-là soient maltraités à cause de leur, crimes qu'elles ont commis dans le fond. Donc moi, mon but serait aussi de peut-être aider ces enfants-là à être insérés dans la société.
Mmh. Donc tu es très impliquée effectivement pour toutes ces causes que tu estimes injustes et donner un peu de bonheur et un peu de répit justement à des publics différents. Des publics vulnérables aussi.
Exactement.
C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu souhaiterais faire plus tard? Est-ce que tu te vois comme une vraie défendresse, justement, pas de la veuve et de l'orphelin, mais en tout cas, justement, des personnes les plus fragiles? Comment tu te vois dans les 5-10 ans à venir?
je dirais dans 10 ans, je compte avoir plusieurs ONG. Mm-hmm. Ne pas forcément être basée en Côte d'Ivoire, mais plus en Afrique.
Oui, parce que tu es originaire de la Côte d'Ivoire.
Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Mais je dirais comme être avoir une ONG qui va peut-être aider. Mm-hmm. C'est vrai, les injustices ne vont pas finir tout d'un coup dans mm-hmm. ce monde. On le sait, mais peut-être apporter du sourire à des enfants comme ceux qui sont dans les prisons en ce moment avec leur mère. Peut-être leur donner une nouvelle chance dans la vie parce qu'ils n'ont rien demandé. Et aussi pour les femmes, vraiment essayer de me battre afin que toute femme ait droit à l'éducation et que l'éducation de la femme soit gratuite. Parce que moi, je vois une société éduquée et une société éduquée, c'est une société qui avance ensemble et c'est une société qui peut se développer. Et je sais qu'en Afrique, le développement est très minime et très bas. Il faudrait que le taux d'analphabétisation baisse pour qu'on ait plus de personnes qui vont à l'école. C'est vraiment mon combat.
Très bien. Et ce que tu es venu chercher au Canada, au Québec, aujourd'hui, puisque tu as commencé dans l'Ontario, mais tu es aujourd'hui effectivement dans la province de Québec, c'est d'avoir plus d'expertise et puis justement profiter de cette expertise québécoise que tu vas acquérir pour aller contribuer justement Exactement. Au bien-être des populations ailleurs. Quels sont les maillages que tu souhaiterais faire pour que justement Québec ou le Canada de façon plus générale puisse s'impliquer davantage dans ces causes, parce qu'il y a plein de programmes, il y a beaucoup de programmes faits par les organisations internationales qu'on salue d'ailleurs, de coopération un petit peu partout au Québec, qui font un travail formidable. Est-ce que tu comptes effectivement t'impliquer dans ces organisations québécoises pour t'apporter encore de l'expertise?
Oui, exactement. Dans le fond, là, j'ai pris une pause, mais je veux faire une maîtrise en développement international et action humanitaire, justement pour pouvoir avoir moi-même comme l'espérance nécessaire pour essayer de créer une ONG et puis aussi travailler avec les ONG déjà militantes. Quand j'étais à Ottawa, j'étais avec UNICEF Ottawa de l'Université d'Ottawa. Donc, on avait mené des actions, notamment au Yémen, quand il y avait des catastrophes naturelles. On avait aussi fait des dons en Sibérie. C'est vraiment des expériences qui m'ont beaucoup marquée et j'ai voulu continuer dedans dans le côté associatif aussi.
Justement, cette expérience internationale, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces étudiants qui nous écoutent, ces étudiantes et ces étudiants, et puis au-delà, hein, toutes les personnes qui peuvent nous capter ici à la capitale nationale, sur la richesse interculturelle, c'est porteur, et tu penses qu'on peut développer de belles choses, de belles initiatives?
Exactement. J'ai pas grandi dans mon pays d'origine. J'ai eu la plupart du temps, j'ai voyagé la plupart du temps. Comme j'ai fait tout mon collège au Maroc où j'ai acquéri une nouvelle culture, où j'ai été acceptée. Je faisais le système français, mais je vivais avec des Marocains, donc j'ai vu leur niveau de vie, la manière de vivre là-bas. Et je suis allée également en France, donc j'ai vu le côté européen, le côté africain. Et puis je suis venue au Canada, j'ai vu le côté canadien. C'est très très important de voyager, d'aller à l'étranger, d'apprendre de nouvelles choses pour ensuite aller se développer. Je me dis, aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un d'international. Quel que soit le pays où j'irai, je pense que je pourrais m'adapter. Et c'est ce que j'encourage fièrement à tout le monde de faire, d'avoir une expérience à l'international. Je sais qu'ici, à l'Université Laval, on offre des opportunités pour aller à l'international, même pour une session. C'est vraiment remarquable et j'encourage tout le monde à le faire. Donc.
Absolument. Donc, donner la chance aussi à ceux qui ne peuvent pas le faire, parce que c'est aussi des questions de moyens et d'opportunités. Mais c'est clair qu'une expérience internationale est riche à tous les niveaux, en fait. Et donc, c'est important d'embrasser aussi toutes ces cultures pour mieux connaître l'autre et pour avancer ensemble. Alors, on arrive au moment où on va parler davantage de tes nouvelles fonctions, effectivement, à l'Allier. Donc, en tant que chargé aux communications, tu as de beaux défis à relever. Comment tu vas t'y prendre et quels sont ces défis-là? Est-ce qu'on peut en avoir quelques-uns?
Oui, bien sûr. Alors présentement, je suis à ma première semaine et j'essaie de me familiariser au mieux avec les tâches qui me sont affilées, donc notamment faire la planification pour les mois à venir. Côté communication, essayer de donner plus de visibilité sur les activités qu'offre l'Allier. Comme je sais qu'aujourd'hui, nous avons un webinaire sur les bourses. Donc c'est vraiment aider l'Allier à mieux être connu et puis aussi à faire connaître tout ce qu'ils offrent comme service autour, parce que demain également il y a une autre webinaire sur les assurances. On a aussi un forum des membres qui viendra dans les jours à venir, Et puis, il y a pas mal d'activités qui viennent. Donc, c'est vraiment apporter, je dirais, ma touche personnelle au niveau de la communication, mm-hmm. par ma curiosité, amener d'autres personnes à être curieux pour essayer de peut-être se familiariser avec l'association et puis être mieux intégré dans la société canadienne.
C'est assez intéressant et je prends la balle au bon quand tu dis ça, effectivement, Laetitia. Chargée aux communications, en fait, un ou une chargée aux communications, en fait, on a l'impression que bon, ce sont les mêmes tâches qui reviennent, bon, les réseaux sociaux, faire un planning, une planification à la fois pour les médias, faire connaître, etc. À quel moment on peut se démarquer justement dans un tel poste?
Moi, je dirais que ça commence par la curiosité. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu as une petite tâche qu'on t'a donnée, il faudrait que tu puisses la rendre plus belle, je dirais. Mm-hmm. Donc moi, je me démarque par peut-être ma curiosité et mon expertise à aller chercher plus que ce qu'on me demande de faire. Pourquoi pas peut-être, par exemple, si on me demande de mettre une photo sur le site, je vais la rendre plus belle. Mm-hmm. C'est vraiment ces petites...
C'est ta touche personnelle.
Ces petites tâches-là que j'essaye de perfectionner dans le fond. C'est ça, pour plus se démarquer, je dirais.
Super. Je vois aussi, effectivement, que tu es passionnée du journalisme. Tu es passionnée, effectivement, à la fois de la radio et de la télé. Je crois que tu co-animes une émission, d'ailleurs, à Chise,
oui,
dans la semaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le journalisme? Bien sûr, quand on s'intéresse au journalisme, il faut être curieux. Il faut vérifier
Exactement.
L'information, la valider, et puis après divulguer, mais en étant sûr d'avoir les bonnes informations à transmettre. Mais qu'est-ce qui te... Parle-nous de tes émissions, effectivement, celles que tu animes déjà ici.
Alors, à Chise, depuis la session passée, j'anime une émission de politique. Mm-hmm. Donc, on parle de politique québécoise. Mm-hmm. C'est la partie principale. On parle des sujets du jour, de ce qui touche la société québécoise au jour, par rapport au gouvernement, par rapport au gouvernement fédéral et provincial. Par la suite, on parle aussi de politique internationale. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on avait parlé la session passée. On est tombé dans la période où il y avait la COP15, donc on avait parlé de ça. Mm-hmm. On parle également de sujets personnels, comme on avait parlé de Noël, on avait aussi parlé de l'Halloween. Mm-hmm. On touche un peu à tout et c'est ce qui fait la beauté du journaliste dans mm-hmm. le fond, parce que c'est parler du quotidien, de ce qui se passe au quotidien, de ce qu'on vit comme
Et pourtant le quotidien n'est pas facile. Comment
c'est
trouver
ça.
Une comment justement revenir jour après jour pour évoquer l'actualité? Est-ce que ça, tu arrives à prendre de la distance avec ça? Et puis c'est nécessaire de toute façon.
Pour moi, de ce que j'ai appris, de ce que je sais, c'est qu'un bon journaliste doit savoir se mettre dans la peau de toute chose. Mm-hmm. Même si le sujet, comme quand on parle de viol, mm-hmm. même si le sujet ne te passionne pas tant que ça, faut que tu puisses donner ton avis, faut que tu sois neutre. Le côté neutralité est très très important pour un bon journaliste. Mm-hmm. Pour moi, c'est l'une des
Alors,
qualités.
Alors tu dis deux choses, il faut donner ton avis, il faut rester neutre, donc il faut choisir.
donner
l'information,
avis,
évidemment.
Dans une certaine transparence.
Oui. Ouais.
C'est-à-dire, okay. tu peux ne pas être d'accord avec quelque chose, mais tu peux le dire.
Donc, qu'est-ce qui t'intéresse alors, Laetitia? C'est le journalisme d'opinion ou c'est le journalisme, effectivement, où il y a la transmission d'informations telles quelles, effectivement, après validation, enfin, les éléments de base du journalisme?
Je dirais les deux, dans
ouais,
le fond.
D'accord.
Parce qu'un journalisme d'opinion peut être un journaliste qui donne l'information,
bien
qui
sûr.
Révèle l'information
bien
telle
sûr.
Qu'elle est.
À la base,
parce
oui.
que de toute façon, quand on prend une information sur un sujet spécial, on le réécrit dans nos propres mots mm-hmm. pour ensuite le transmettre. Donc, en le réécrivant, il y a des mots qui changent. Pour moi, c'est donner son avis.
Alors, est-ce que, tout en sachant effectivement qu'il faut de la neutralité quand on donne l'information, est-ce que tu parles de journalisme, tu vas probablement effectivement poursuivre aussi tes études en maîtrise de journalisme et communication. Est-ce que pour toi il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme de solution, c'est quelque chose qui te parle ou est-ce que tu penses te spécialiser?
Dans un journaliste spécial.
Oui.
Dans le fond, j'ai pas
Les
vraiment.
Sujets
de
prédilection où tu aimerais vraiment devenir experte ou peut-être que ça viendra par la suite, peut-être.
Bah, mon rêve, ce mm-hmm. serait peut-être d'avoir une émission à moi, mm-hmm. mais c'est plus un talk show, mm-hmm. mais dans lequel on parle de plusieurs sujets. Mm-hmm. Mettre en avant les femmes, c'est vrai, mm-hmm. avec les sujets qui touchent les femmes, mm-hmm. sur lesquels on va débattre, les sujets de société aussi, Et les sujets les moins bons, comme je dirais les sujets fâcheux comme la politique ou peut-être des solutions ou le viol, bien d'autres, c'est vraiment regrouper tout ça pour en parler. C'est plus aller sur le côté généraliste du journalisme, dans le fond.
Super. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? On arrive quasiment à la fin de cette émission. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès dans tes projets, tes initiatives et puis ce nouveau défi professionnel pour toi.
Bah, ce que je dirais, c'est, enfin, je dirais à tous les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'être passionnés dans ce qu'on fait et de garder la tête haute, quelles que soient les difficultés. Et puis aussi de se dire que, quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu sois le meilleur.
Absolument. Oui, voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup, Laetitia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pied levé ce matin, ce
merci,
mercredi.
Merci,
Ben, question de savoir, c'est là pour vous. Vous pouvez effectivement écrire à l'Allier, pour passer nous voir aussi, évidemment, pour que si vous avez des projets, des initiatives en cours sur le campus, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui sont au cycle supérieur et qui souhaitent effectivement discuter, jaser avec nous, c'est avec plaisir. Vous nous écrivez et on sera très heureux de vous accueillir durant 25 minutes pour évoquer avec nous vos projets en cours, que ce soit les associations départementales, facultaires. Vous êtes les bienvenus et on va échanger et vous allez pouvoir participer à Question de savoir et aux nombreux projets que vous propose évidemment l'Allier au quotidien. Merci, passez une belle journée, passez une belle semaine et puis on se retrouve très bientôt.
Savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeules, et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendra toutes les tournes de l'heure. Chérie J'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Schiste 94.3.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but!
Les Remparts de Québec sont de retour à la maison et ils accueillent le Drakkar de Baie-Comeau ce mercredi 18 janvier à 19h. Rejoignez Ray Cloutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts, Drakkar, mercredi à 19h sur les ondes de Schiste 94.3.